C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, éliminer Kadhafi fut promptement mené. Assurer l'après-Kadhafi fut une autre affaire. L'ascenseur du mensonge avait tout prévu, sauf ça. L'acharnement de la France en Libye va entraîner des dommages collatéraux. En août 2011, la France bombarde la maison de Abdallah Senoussi. Au milieu des ruines, on retrouve un document daté de décembre 2006, signé du fameux Moussa Koussa, attestant d'une promesse de fonds à hauteur de 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy. Le document est adressé au grand argentier de Kadhafi, Bachir Saleh. Mediapart fait état du document lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy attaque immédiatement pour production de faux et usage de faux. Sarkozy prétendra que le soi-disant pacte de corruption est une invention libyenne pour le salir. Puis il dira plus tard au juge que Kadhafi a été escroqué par Taki Edine, alors que l'argent a été retrouvé à Paris. La panique est d'autant plus grande que Bachir Saleh, recherché par Interpol, se trouve en fait à Paris, protégé par la France qu'il a exfiltré de Libye le 23 novembre 2011 et il bénéficie même d'une mesure de regroupement familial. Il faut de toute urgence que Bachir quitte notre territoire et on va organiser sa fuite par l'entremise du chef des services de renseignement français aidé par le remplaçant de Taki Edine, Alexandre Djouri, un homme au passé sulfureux ayant grandi à Sarcelles où il fréquenta la pègre et qui entre autres activités lança en octobre 1983 une ligne de blousons de cuir commercialisée par la société Anthony Delon Diffusion. On met Bachir dans un jet privé destination le Niger puis l'Afrique du Sud. Moussa Koussa reconnaît lors de son audition le 5 août 2014 que le document retrouvé est authentique, mais prétend qu'il n'est pas signé de sa main, ce que contesteront trois experts graphologues. Bachir Saleh, qui avait jusque-là tenu sa langue, manifesta soudain l'envie de se confesser, ce qui lui valut deux balles dans le torse, une tentative d'assassinat dont il réchappa avant de s'envoler pour le Moyen-Orient. Soudainement, Taki Edine en cavale à Beyrouth apparaît en 2020, filmé sur la marina de Beyrouth, pour déclarer lors d'une interview ultra brève de 29 secondes que les juges lui ont demandé de mentir pour accabler Sarkozy. Immédiatement, Sarkozy se fendra d'une intervention de 45 minutes pour clamer que ça y est, son innocence est avérée. Sauf que tout cela est une manipulation. Taki Edine est à court d'argent. On lui a proposé 50 000 euros de suite et 4 millions d'euros après coup s'il changeait sa version de l'affaire. Des documents ainsi qu'un mail en attestent. L'interview avait été montée par Paris Match, appartenant au groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est membre du conseil de surveillance. Celle qui a organisé ces fausses révélations est la fameuse Mimi Marchand, autrement baptisée la papesse de la presse People, une entremetteuse que l'on retrouvera gravitant ultérieurement autour du couple Macron. S'ensuit une mise en examen de Mimi Marchand, Nicolas Sarkozy pour subornation de témoins et son épouse Carla Bruni pour avoir détenu un téléphone qui a servi à l'opération. Ils sont accusés par leur opération baptisée « Sauver Sarko » d'avoir tenté une escroquerie au jugement. Taki Edine rechangera d'ailleurs une nouvelle fois de version et renouvellera ses accusations contre Sarkozy. Le premier ministre libyen Choukri Ghanem s'était enfui en Autriche et en avril 2012, on retrouve son corps flottant dans le Danube après, semble-t-il, une crise cardiaque. Il remplit ses quantités de carnets dont une note du 29 avril 2007 consignant le versement de 6,5 millions d'euros versés par tel et tel dignitaire libyen, ce qui prouve que les preuves n'ont pas été fabriquées après coup. Sur le carnet est indiqué que l'argent aurait été détourné. Et puis, il y a la divulgation des courriels privés d'Hillary Clinton, parmi lesquels un mémo liste les 5 raisons profondes de l'initiative libyenne de Sarkozy. Désir d'obtenir une plus grande part du pétrole libyen, accroître l'influence de la France, redorer sa réputation dans l'opinion publique, contrer le poids grandissant de Kadhafi en Afrique et le risque de voir le projet de dinar or assis sur 7 milliards de réserves d'or supplanter le franc CFA. Un autre mémo fait allusion à des vols humanitaires effectués mi-avril qui acheminaient des cadres de Total, EADS et Vinci. BHL a fait comprendre aux Libyens qu'ils étaient redevables de l'aide apportée dès le départ et que la France voulait 35% du gâteau pétrolier. Certains avancèrent que l'OTAN avait outrepassé son rôle et utilisé ses moyens pour transmettre au Conseil de transition la localisation des cadres du régime, mais aussi celle de Kadhafi.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
So different and so new was like any other. Until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever.
En septembre 2012 paraissait Les Proies, un livre signé Annick Cogent, ouvrage précédé en novembre 2011 d'un article du Monde relatant les souvenirs de Soraya. Selon elle, l'année de ses 15 ans, le guide libyen lui caressait les cheveux avant d'en faire son esclave sexuelle à vie, violée, droguée, forcée de consommer alcool et stupéfiants, et intégrée à la troupe des Amazones. Il y aurait eu des centaines de femmes dans son cas. Kadhafi étant mort, le camp du bien se délectait de le présenter comme un orgiaque drogué en permanence, violeur en série, lui et sa garde rapprochée de centaines de jeunes filles, y compris lorsqu'elles devenaient amazones. Il n'est pas jusqu'à Frédéric Mitterrand, amateur avéré de petits mâles exotiques, pour prétendre que Kadhafi, le bisexuel, lui eût proposé de passer une nuit avec lui. Le guide, une fois effacé des gêneurs, a tous les défauts de la terre et ses penchants sexuels masquent ses ambitions gênantes à l'international. Cogent évoque un obsédé du sexe, consommant des caisses de Viagra, exigeant 4 rapports par jour devant témoins, repérant ses futures proies dans les écoles, urinant sur ses partenaires, conservant des linges portant les traces de leur défloraison pour pratiquer la magie noire. Il aurait aussi affectionné les femmes médecins, faisant pratiquer un examen gynécologique avant de violer et ultérieurement des reconstructions d'hymen. Il aurait fait son miel de femmes de dignitaires, de ministres, de chefs d'État étrangers. Et lors de ses déplacements hors de Libye, Mabrouka Chérif, sa rabatteuse, lui trouvait de quoi renouveler leur cheptel. Les violés auraient gardé le silence de peur d'être supprimés par le régime, mais aussi pour ne pas l'être par leur famille déshonorée, voire par les révolutionnaires les soupçonnant de collaboration. Les hommes étaient également régulièrement consommés. À ses troupes, il distribuait des pilules, de l'eau de vie et du hashish avant qu'ils reçoivent l'ordre de violer des familles d'opposants, de la petite fille à la grand-mère. Des centaines de cassettes de ses viols personnels auraient été retrouvées dans son palais, mais providentiellement détruites. Par respect pour les victimes, ou parce qu'il s'agit de diffamation, on ne sait. Bref, ce tyran sanguinaire et serial violeur avait, selon nos journaux, amplement mérité son sort. Le peuple avait eu sa révolution. La suite pour lui est un long cortège de malheurs pour le peuple libyen déchiré entre de multiples factions rivales avec un État coupé en deux. Le Congrès général national est élu suite à un scrutin émaillé de violences et de sabotages perpétrés dans l'est du pays. Le CGN des islamistes de Tripoli s'empresse de proclamer la charia. En septembre 2012, l'ambassadeur américain Benghazi est abattu. En avril 2013, c'est l'ambassade de France à Tripoli qui est victime d'un attentat. Omran Chaban, jeune électricien, qui avait fait partie des hommes ayant capturé Kadhafi en l'extrayant du tunnel où il avait trouvé refuge, s'était vu promettre 620 000 euros de récompense dont il n'avait pas vu la couleur. Une photo l'avait immortalisé brandissant le pistolet Browning en or du guide libyen ramassé sur le sol. En 2012, il est enlevé par des loyalistes, torturé et restitué après sa détention, puis transféré dans un hôpital parisien où il décède des suites de ses mauvais traitements, lui qui avait tenté d'empêcher que Kadhafi soit tué après sa capture. En 2014, suite à de nouvelles élections, les islamistes perdent, mais refusent de céder la place et aidés de leurs milices reprennent le pouvoir par la force à Tripoli, tandis que le chef des armées, le général Khalifa Haftar, oui, celui qui avait été cornaqué par la CIA et avait tenté en vain de renverser Kadhafi quelques années plus tôt, il se réfugie à l'est du pays avec les membres du parlement légalement élus. Sous l'instigation de l'ONU, un gouvernement d'union nationale est désigné et s'installe à Tripoli, mais Haftar refuse de le reconnaître. Le GNA tient l'ouest, l'armée nationale libyenne tient l'est et le sud est la proie de milices et de groupes djihadistes. Haftar va vaincre les islamistes à l'est et s'emparer d'une énorme réserve de pétrole au sud avant de tenter en avril 2019 de prendre Tripoli avec l'appui des Russes, des Émiriens et des Égyptiens, tandis que les forces du GNA vont en juin 2020 reconquérir l'ouest avec l'aide des Turcs. Un cessez-le-feu est signé en octobre 2020, un gouvernement constitué de façon transitoire, puis des élections surviennent. Mais le premier ministre provisoire refuse le verdict des urnes et reçoit l'appui de l'ONU contre la faction victorieuse électoralement soutenue par Haftar. Le pays est donc à nouveau morcelé. En septembre 2023, des inondations diluviennes entraînent des milliers de morts et de déplacés dans un pays livré à l'anarchie et où les infrastructures sont en ruine. Un gâchis phénoménal. Alors certains vont regretter l'époque Kadhafi, l'homme qui traitait les djihadistes au napalm, qui utilisait des mercenaires africains et pratiquait un fructueux chantage aux migrants, lui permettant d'obtenir des milliards d'euros du gouvernement Berlusconi. En 2009 et 2010, les arrivages de migrants sur les côtes italiennes avaient chuté de 88% et fort de cette efficacité, Kadhafi réclamait 5 milliards d'euros par an pour prix de cette rétention. Devant le désastre de l'après-Kadhafi, Barack Obama exprima ses regrets de ne point avoir préparé un changement de régime, tandis que Sarkozy, évincé de la présidence en 2012, se défaussait sur l'inaction de Hollande pendant son mandat pour alléguer que l'après-vente n'avait pas été à la hauteur. La France récupéra et entretint l'avion du guide. Il possédait un Airbus A340 luxueusement équipé qui stationnera durant des années sur le tarmac de l'aéroport de Perpignan, la France le considérant comme un bien présidentiel non susceptible de servir de moyen de règlement pour les créances d'un conglomérat koweïti. La société de maintenance EAS consacrera des millions d'euros à l'entretien de l'appareil qui lui avait été confié par le nouveau gouvernement de la Libye afin qu'il ne tombe pas aux mains des milices. Et ce n'est qu'en 2021 que l'appareil remis à niveau regagnera son pays après un vol retour via la Turquie. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, Mouammar Kadhafi avait de l'argent, beaucoup d'argent. Il avait aussi des enfants, beaucoup d'enfants. Nous découvrirons lors de notre prochaine rencontre ce qui advint de l'un et des autres.
Écoute on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. Oh, oh, oh. J'aboirai encore, mais tu t'endors sous mon piano quand je joue. Oh, 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 oh. Oh, libellule, et toi t'as les ailes fragiles. Moi j'ai la carlingue froissée. J'ai chanté toute la nuit.